Il est fondamental que chacun d'entre vous choisisse en précisant ce que vous désirez changer. Si vous marchez à cette heure et en ce lieu, c'est que vous cherchez quelque chose. Et cette chose, nous pouvons vous la fournir.
Art Espace Public est un cycle de 10 rencontres débats proposés de janvier à mars 2008 par le Master Projet Culturel dans l'Espace Public de l'Université de Paris 1, la Sorbonne, en partenariat avec Hors les Murs, Centre National de Ressources des Arts de la Rue et des Arts du Cirque.
Alors, nous souhaitions, à mi-chemin de ce cycle Art Espace Public, puisque c'est la cinquième rencontre, interroger ces nouveaux genres d'espaces publics, les espaces publics virtuels, où des millions de personnes vivent, habitent, travaillent, jouent, notamment. Des espaces publics virtuels qui sont de plusieurs natures. Il y a les jeux multijoueurs, massivement multijoueurs en ligne, et puis les univers persistants qui ne sont pas à proprement parler des jeux comme Second Life dont on va parler ce soir. Ce sont des univers virtuels qui ont un poids de réalité, on va le voir ce soir, important. Un poids de réalité parce qu'il y a ces activités artistiques, économiques et autres, mais aussi parce que ceux qui y sont, ceux qui y jouent, vivent des expériences qui ont une charge de réalité, qui ont une densité ontologique particulière. J'ai été très frappé de voir l'année dernière un film de Kaori Kinoshita et Alain Delanegra qui présentaient des joueurs simplement témoignant de leurs expériences sur Second Life et qui en parlaient comme s'ils les avaient réellement vécues. Ça pose des questions assez passionnantes qu'on évoquera sans doute ce soir. Qu'est-ce qu'une expérience? Quel est le statut aussi de l'avatar, par exemple? Alors notre sujet néanmoins ce soir n'est pas Second Life de façon générale, mais l'espace public sur Second Life et les projets artistiques sur Second Life, comme cela va être rappelé dans un instant. Et une des questions que l'on va se poser, c'est notamment justement si Second Life est un espace public.
Second Life n'est ni un site, ni un jeu, c'est un univers virtuel en trois dimensions que l'on visite donc sous la forme d'un avatar. On marche, on construit sa maison, on fait ses courses, on va danser en boîte de nuit ou jouer au casino, on s'achète des vêtements, on travaille pour gagner de l'argent, on rencontre d'autres personnes, on peut se toucher, se parler, faire l'amour. Depuis sa création en 2003 par la société Linden Lab, Second Life a attiré plus de 12 millions d'internautes, dont 500 000 sont des utilisateurs réguliers. Aujourd'hui, plus de 2 millions de dollars américains sont échangés chaque jour dans les différentes boutiques, les discothèques, les casinos, les lieux de prostitution, au fil des jeux ou dans les agences immobilières. En 2007, Second Life est devenu un nouvel espace de débat public avec la campagne présidentielle française, lorsque des utilisateurs ont fait la promotion de certains candidats, et certaines îles ont même été transformées en QG de campagne.
Après les secteurs de la communication, de l'économie, du marketing et de la politique, les artistes ont eux aussi investi cet espace. Ils ont ouvert des galeries, ils font des performances, il y a des installations et même des créations architecturales inédites. L'absence de règles, de limites spatiales et de contraintes ont fait de Second Life un terrain unique et qui offre des nouvelles potentialités à la création artistique contemporaine. Copier-coller ou nouveau monde, et sans vouloir les opposer, nous allons essayer de voir les particularités de cet univers virtuel. On va poser les questions suivantes. Quelles sont les particularités de ce nouvel espace public? Jusqu'où va l'intervention et l'interaction avec le monde physique? Quels sont ces projets développés sur Second Life? Donc ce soir, nous allons explorer cet univers virtuel en compagnie de nos trois invités, un géographe et deux artistes, et voir à partir d'exemples de projets menés par des artistes ou des institutions culturelles, ce que Second Life apporte à la réalité. Donc avec nous ce soir, Michel Lussault, qui est géographe et professeur à l'Université François Rabelais de Tours et qui s'est lancé dans la découverte de cette terre inconnue. Marc Bilieux, artiste multimédia qui dirige le projet R et R Second Life. Et Agnès de Cailleux, net artiste, qui est notamment chargée du projet X Réseau, initié par le théâtre Paris-Villette en faveur de la création du spectacle vivant. Nous allons commencer avec vous, Marc Bilieux. Donc vous dirigez l'association R, oui. Et qui mène une action à la fois dans la Real Life et dans Second Life. Vous êtes la première association à avoir investi ce monde virtuel pour promouvoir l'écologie dans une approche transdisciplinaire et pour y développer la notion d'art transactionnel. Donc est-ce que vous pouvez nous dire en quoi Second Life est un terrain propice à cette démarche ?
Donc en fait, peut-être revenir un petit peu à l'origine de mon travail artistique, puisque je mène une recherche en fait, qui est une recherche artistique et théorique depuis 10 ans, qui s'appuie sur les bases de la physique quantique en fait, et qui dit que le réel n'existe pas, c'est d'énergie concentrée. Donc à partir de ça, j'ai créé une structure en 2004 qui s'appelle R, qui est une structure qui accueille des artistes. Donc je suis arrivé effectivement sur Second Life en octobre 2006. On a été la première association française à s'être implantée dans Second Life. Et on essaye donc de réfléchir, c'est un laboratoire d'expérience. Effectivement, donc pourquoi Second Life est intéressant, c'est que en fait les outils sont facilement accessibles à tous, et donc l'artiste devient en fait vraiment un accompagnateur. C'est art transactionnel, c'est on va créer en fonction de ce que chacun va apporter, c'est-à-dire son vécu, sa personnalité, ses difficultés. On ne sait pas précisément en fait ce que va donner l'œuvre finale, mais c'est un travail de co-création. Donc là où c'est intéressant en Second Life en fait, c'est que ça, c'est comme ces outils sont facilement accessibles, on peut faire ce travail de co-création. Je pense que pour vraiment comprendre en fait cet univers virtuel, il faut vraiment s'immerger dedans. Jusqu'ici, en fait, on a développé une communauté. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec des personnes qui sont pas du tout donc des artistes. Donc, par exemple, la première action qu'on a fait, c'était pendant les présidentielles, donc en avril de 2007. On a mis des barils de fûts radioactifs en fait sur différents terrains et à côté des QG de campagne justement. Et on était une soixantaine d'avatars et on se déplaçait comme ça, c'était une sorte de flash mob, on se déplaçait d'un lieu à un autre pour faire exploser nos barils.
Est-ce qu'il existe une différence entre le public de Second Life auquel vous vous frottez, celui de la réalité? Est-ce qu'il y a une différence dans les bonnes volontés que vous pouvez recueillir, les bénévoles qui vont vous accompagner par exemple? Est-ce qu'il y en a plus dans Second Life que dans la réalité?
Oui, c'est sûr que ça permet aussi de toucher des gens qui sont pas dans son environnement local, en fait. D'autant plus que moi, j'ai choisi volontairement d'être dans une petite ville de province qui est au centre de la France, qui s'appelle Moulins, et qui a 45 000 habitants. Du coup, être sur Second Life, ça permet de fédérer, de développer des liens beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement aussi. Il faut dire que Second Life est une petite communauté. Il y a 12 millions, je crois, d'inscrits, mais il y a en permanence, disons, 45 000 utilisateurs. Donc 45 000 utilisateurs dans le monde entier, ce qui est pas par jour, donc pas beaucoup. Pour l'instant, c'est un petit village.
Est-ce que Second Life est écologiquement correct ?
Je pense que c'est une des solutions possibles pour limiter les déplacements. Quand effectivement on parle de réchauffement de la planète, au lieu de faire des réunions de travail où chacun va prendre sa voiture ou l'avion pour se retrouver, on peut le faire effectivement par Second Life. Alors et ça va être une des prochaines actions, on va faire une pétition pour demander à Linden Lab, donc la société qui a créé Second Life, de s'équiper comme Google en fait en énergie renouvelable en fait.
On a beaucoup entendu parler du concours d'architecture qui a été lancé par R.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur qui était le gagnant, qu'est-ce que c'était, quelle était l'œuvre gagnante et
alors, pourquoi? Quand je suis arrivé sur Second Life, j'ai envie de fuir tout de suite, en fait. C'est que ce que j'ai vu, en fait, c'est pour la... à ce moment-là aussi, c'était beaucoup des petites maisons avec des petites piscines à côté. C'était la... Linden Lab, c'est une société américaine, donc ça représentait un peu la classe moyenne américaine, en fait. Et donc, les gens achètent des maisons pour habiter dedans. Et je me suis dit, comment parler d'écologie? Et par ce biais-là, par le biais de l'architecture, c'était une façon d'amener le discours aux créateurs. Il y a beaucoup de créateurs d'architecture, et c'est pas des professionnels du tout. Hein. C'est ça qui est intéressant aussi dans Second Life, hein, c'est que chacun utilise ces outils-là. Donc on a eu 70 inscrits au concours et les gagnants ne sont pas du tout donc, des architectes. Donc on proposait un projet assez innovant donc, d'architecture.
Michel Lusseau, je vais profiter de cette transition de cette transition que je vais faire tout de suite. Sur le fait que ce ne sont pas que des images et aussi sur le fait que nous avons parlé tout à l'heure du fait que Second Life était un espace de confrontation, d'engagement politique et j'aurais voulu savoir de votre point de vue de géographe, est-ce que Second Life peut être considéré comme un espace public à part entière, symbolique, virtuel, factice?
Je vais m'efforcer de ne pas répondre à la question. Et je vais d'abord essayer de faire un petit détour. Mon voisin a commencé par dire qu'il se fondait sur des prémices de la physique quantique qui postulaient que la réalité n'existait pas. Il se trouve que, du coup, c'est intéressant parce que moi, j'ai une tendance à voir de la réalité partout. C'est-à-dire d'être plutôt un réaliste au sens... un peu basique du terme, et reprendre une formulation de Bruno Latour qui dit souvent les réalités sont là. Bon, elles sont là, on fait avec.
La parole à Margarita Balzerani qui est ici avec nous, qui est historienne et critique d'art. Elle s'est spécialisée dans l'étude des relations existantes entre les jeux vidéo et l'art contemporain. Elle est aujourd'hui professeure de sémiotique et d'histoire de l'art dans l'école de manga
Eurasiam.
D'accord. Et est chargée du projet de création d'une antenne du palais de Tokyo, hors les murs, sur Second Life.
Et ma présentation va surtout explorer l'idée, et qui peut-être n'a pas tout à fait été abordée ce soir, c'est-à-dire est-ce que ce monde, ce métaverse, ce monde persistant, Second Life, peut être considéré comme un territoire d'exploration artistique. Ce que je veux faire ce soir, en fait, c'est tout simplement explorer cette idée de Second Life en tant que territoire artistique par des expériences qui ont été déjà menées par des artistes, bien sûr. D'ailleurs, cette conférence pose la question, est-ce que Second Life, c'est un copier-coller ou bien c'est un espace créatif. Pour moi, en fait, tout simplement, ça peut être la résolution des deux, c'est-à-dire quelque chose qui résume, bien sûr, une esthétique de copier-coller, on le verra d'ailleurs dans ma présentation, mais à la fois c'est une esthétique du build yourself, du customize yourself, puisque vous êtes vous-même, par votre propre avatar, démiurge de vous-même et donc de la représentation que vous voulez donner aux autres et aussi de votre environnement. Donc vous pouvez tout construire, tout créer. Par contre, ce que j'ai remarqué depuis que je fréquente ce monde, peu de gens, peu d'artistes, peu d'architectes aussi ont essayé de détourner, ont essayé de pousser les limites, les contraintes. Quelle est la base de l'architecture, par exemple, c'est de jouer avec ces contraintes. Et peu d'artistes arrivent à jouer tout simplement avec ce qui est la base de l'acte artistique. C'est quoi de la techné, c'est celle de créer. Et ils se basent tout simplement à copier-coller, à faire de la mimésis formelle, etc. Le premier exemple que je veux vous montrer, en fait, c'est l'exemple de deux artistes qui d'ailleurs vont être exposés, comme vous disiez tout à l'heure, dans Exit. Et c'est Eve et Franco Mattes, ce sont un couple d'artistes italiens qui travaillent tout simplement sur l'idée du copyleft, c'est-à-dire du partage du savoir, donc ils s'opposent justement au copyright. Et en fait, ce qu'ils ont réalisé notamment, ils ont commencé à faire des portraits d'avatars. En fait, il s'agit d'énormes tableaux de personnages qu'on peut trouver ou côtoyer dans Second Life. Mais ce que je veux vous montrer ce soir, c'est une des performances qu'ils ont réalisées. C'est en fait c'est ce qu'ils appellent les synthèses performance. Tout simplement, en fait, ils ont repris une série de performances emblématiques des années 70 et via leurs avatars, ils les ont rejouées à l'intérieur de ce métaverse. La première, c'était celle de Valley Export, qui avait été réalisée en 68 et ils ont recréé cette performance, en fait, dans Second Life à travers leur avatar. La deuxième, c'était celle de Chris Burden, qui était d'ailleurs une performance extrêmement violente puisque Chris Burden shootait le bras d'un de ses amis et ils ont fait la même chose dans sa... Oui, c'est le contraire. Donc, il se faisait shooter par un de ses amis. Et ils ont fait exactement la même chose dans Second Life. Et voilà. Après, je voulais vous montrer aussi un autre personnage assez emblématique de ce monde que j'ai pu côtoyer à l'intérieur de Second Life. C'est un personnage qui s'appelle Molotov Alva, qui est un personnage, c'est un avatar virtuel. Donc c'est une personne qui se filme depuis son arrivée dans Second Life et il se filme à travers un journal intime en permanence. Tout ce qui se passe, tous les gens qu'il va côtoyer. Et d'ailleurs, c'est tellement bien répertorié tous les événements de sa vie qu'il a réussi à récolter tellement d'événements que maintenant, pratiquement, il existe je ne sais pas combien d'heures de ce journal intime. Et d'ailleurs, dernièrement, une des chaînes américaines a proposé de pouvoir réacheter les droits de My Life, My Second Life of Mother Alba. Et le troisième exemple, j'ai repris un des exemples de Second Life. Pourquoi ? Parce que finalement, c'était une expérience réalisée par Étienne Joubert. Et c'est là où ça m'intéressait de vous montrer que finalement, il y a eu des artistes qui ont essayé de faire des expériences sur leur avatar. C'était Étienne Joubert qui avait réalisé notamment un avatar sans tête. Donc finalement, on peut aussi essayer de pousser les limites de la création de son propre avatar et d'en faire quelque chose qui ne ressemble pas forcément à un furize ou à un homme ou à une femme.
C'était Second Life, copier-coller ou nouveau monde, une rencontre débat du cycle Art Espace Public enregistrée à la Sorbonne le 22 février 2008. Vous pouvez retrouver un dossier très bien documenté sur ce thème sur le site www.art-espace-public.ca. Hommes, femmes ou furies, rendez-vous dimanche prochain à 10h pour une nouvelle conférence dans ce cycle Art Espace Public.